la marche de l'histoire. Jean Lebrun.
En lieu et place de Patrice Gélinet, qui a choisi de s'amarrer de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté de la Seine, au CSA, le titre de l'émission change. Ne l'oubliez pas, si vous voulez bien continuer à nous télécharger, mais le cap ne changera pas. La marche de l'histoire portera des hommes et des femmes, ceux d'aujourd'hui, vers d'autres femmes et d'autres hommes, ceux d'autrefois, comme le paquebot France que nous allons évoquer aujourd'hui et dont la vocation était justement de porter les hommes vers les hommes.
Nous saluons l'une des grandes réussites que la technique française présentement offre en hommage à la patrie.
Sa première traversée de l'Atlantique est agitée, mais triomphale. La presse est fascinée. Quel luxe, quel confort! Et c'est arrivé à New York. Magique.
Et nous saluons Aymeric Perrois sur la passerelle. Bonjour Aymeric Perrois.
Bonjour.
Vous êtes responsable du patrimoine maritime au Havre et l'un des organisateurs d'une exposition au Musée national de la marine de ce côté-ci de l'eau à Paris qui est consacrée jusqu'au mois d'octobre au paquebot France. Quelques 800 objets y sont rassemblés avec une attention qui n'est pas nostalgique. Hein.
Non, pas du tout.
Quand même, un peu de nostalgie. Il fut un temps où le France était le ministère des Affaires étrangères de la France. Le général de Gaulle, peu avant l'inauguration, on l'entendait là à l'instant, c'était le 11 mai 60, avait fait un voyage aux États-Unis. Il avait regardé comme un géant les petits hommes d'Amérique. Il avait reçu le numéro 1 soviétique, Khrouchtchev. Il avait aussi reçu, juste avant d'aller à Saint-Nazaire pour le lancement, le Pandit Nehru, le premier ministre de l'Inde. Le France illustre l'équidistance dans laquelle veut se trouver la politique étrangère du pays entre les États-Unis et l'Union soviétique.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette portée symbolique du France. On va dire d'ailleurs même des autres paquebots qui l'ont précédé aussi, hein, puisque Normandie aussi. On a tendance à parler des grands liners, des grands transatlantiques sur l'Atlantique Nord. On a tendance à les qualifier d'ambassadeurs des mers. Et c'est vrai que quelque part, il y a cette dimension-là de réunion, enfin de trait d'union en quelque sorte entre l'Europe et les États-Unis. Il ne faut pas oublier que ces grands transatlantiques ont permis l'émigration massive des années 1880 jusqu'aux années 1920, ces émigrations ont vraiment constitué l'Amérique.
Vieux et grand peuple fait pour l'exemple, l'entreprise toujours en vedette de l'histoire. C'est comme ça que le général de Gaulle parle de France. C'est aussi un ministère de la modernisation technique.
Oui, c'est vraiment un ambassadeur aussi technologique au niveau de l'industrie, que ce soit les nouvelles technologies et puis également des arts décoratifs, comme on le verra, je pense.
Mais parlons de technologie d'abord, bien que vous soyez à l'origine historien de l'art, Aymeric Perrois. Tout le début de l'exposition est consacré aux différentes phases de la construction du France.
Oui. Alors le France est avant tout un paquebot où il y a beaucoup d'aluminium et ça c'est une technologie nouvelle. Alors, on connaît l'aluminium depuis un certain temps, mais on a décidé d'alléger en quelque sorte le paquebot. Et puis il y a toutes les innovations aussi au niveau des soudures. Bon, il y a encore des rivets sur le France, mais il y a aussi de nombreuses soudures. Et puis après tout ce qui est innovation au niveau de l'air climatisé et autres. Donc on a vraiment cette dimension-là et puis plein d'éléments aussi au niveau du cahier des charges qui permettent aux France d'être inifugées en quelque sorte avec des nouveaux textiles. Hein, c'est tous les textiles synthétiques que l'on connaît, qui ont été produits par la maison Colcombet ou la maison Brochier par exemple, et qui permettent d'apporter un paquebot vraiment technologique.
Le général de Gaulle, qu'on va entendre plus longuement à la demande générale, en fait il héritait d'un projet qui datait d'avant lui.
Oh là là, depuis déjà la fin de la guerre, effectivement, il y avait une volonté de la part de la Compagnie Générale Transatlantique de remplacer Normandie, donc qui avait brûlé dans le port de New York en 1942. Et dès la fin de la guerre, on commence à réfléchir à un nouveau paquebot. Alors, la Transat hérite d'un paquebot qu'elle avait déjà, qui est Île-de-France, qui sera refondu, et puis de l'ex-Europa, qui deviendrait Liberté, mais très vite, elle réfléchit à faire un nouveau grand paquebot.
Alors ça, c'est 52, il faut pratiquement 10 ans pour que le projet se réalise. Et si des retards sont pris, c'est à cause de la République indécise, de ses ministères, qui changent sans arrêt sous la 4e République. C'est ce qu'aurait pu dire le général de Gaulle.
La mission du navire France sera de transporter d'un bord à l'autre de l'Atlantique des hommes, c'est-à-dire des pensées et des activités, des foyers de connaissances et des sources de travaux. La cérémonie d'aujourd'hui ajoute à la fierté que nous avons de la France. Et maintenant, que France en aille vers l'océan pour voguer et pour servir. Vive la France!
Et voici, que
voici
France...
le bateau maintenant qui glisse lentement, c'est absolument extraordinaire.
Pierre Paquebot, pavillon haut, roi des océans immenses, tu vas porter au monde entier un peu de notre élégance. Tu es un lien pour les humains, un message d'espérance. Toi qui portes fièrement le nom de France.
Dédichée par Jacques Cigale, cette chanson d'Annette Lajean, elle n'est pas, je crois, audible dans l'exposition dont on parle aujourd'hui, l'exposition du Musée national de la Marine à Paris, consacrée à l'histoire brève mais magique du paquebot France. Alors, vous disiez, dans les cabines, il y a l'air conditionné, il y a le téléphone. Il y avait aussi, au moins dans les cabines de première classe, la possibilité d'écouter de la musique, soit un programme de musique classique, soit, c'est ce qu'a choisi Jacques Cigale, un programme, comment disait-on à l'époque, de musique légère. Alors c'est tout un art de vivre, Aymeric Perrois, la vie sur le France.
Ah tout à fait, il faut, on va dire, oublier les 5 jours de mer, donc il faut...
5 jours.
5 jours, oui.
Il faut aller à New York.
Pour aller à New York, il faut qu'on ait des loisirs. Alors c'est tout ce qui est le shuffleboard, c'est tout ce qui est aussi la salle de mécanothérapie, de piscine. Il y a plusieurs piscines à bord du France, entre la classe touriste et la première classe. Mais c'est aussi... tous les jeux de cartes et autres, de bridge. Il y a une grande bibliothèque, il y a des salons de correspondance. Et puis, il y a bien sûr une immense salle de spectacle qui permet de suivre ou des films ou des pièces de théâtre et qui permet, on va dire, en quelque sorte, de passer le temps.
Et la messe le dimanche dans le théâtre.
Et la messe le dimanche.
La chapelle en aluminium étant trop petite. On est, je parle pas de la messe, là, entre la Dolce Vita et les films de Jacques Tati. Ça, ce sont les films des années 60.
Ben, on peut effectivement voir ça comme ça. Effectivement, il y a un peu de ça dans le France. C'est premièrement, on va dire, une modernité qui est en quelque sorte assagie. Hein, puisqu'on n'est pas sur les avant-gardes, on est sur plutôt des Sky et autres, donc on pense là à Playtime, effectivement, avec le Sky qui reprend sa forme, en quelque sorte. Et puis, il y a effectivement la Dolce Vita, comme on veut l'imaginer dans les années 60. Ça, c'est très intéressant, il y a un beau reportage de Chevaujon où on voit la différence entre les années 60 et les années 70, et on va dire la grosse coupure qui a été les années 68. Donc c'est assez amusant de voir effectivement cette société qui évolue dans ce paquebot, qui est réalisé justement pour cette société. C'est ça qui est intéressant.
Fonctionnalité, rationalité, espace. C'est le temps où à terre on aime bien avoir des appartements un peu plus grands, des maisons un peu plus vastes.
Exactement. On a premièrement beaucoup plus de confort au niveau des salles de bain pour toutes les classes. Et puis, le prix du billet sur un paquebot est souvent suivant la lumière, l'espace et l'air. Et là, on est exactement au même niveau. C'est-à-dire que plus on monte et plus on est vers les premières classes.
On parlera du système de classe ou de caste tout à l'heure, mais continuons, flottons, allons jusqu'à New York. Vous nous avez dit que la traversée durait 5 jours. Archive, 14 février 62.
Pour son voyage historique, le paquebot France a vogué à 32 nœuds de moyenne sur une mer agitée. Une mer agitée qui n'a pas empêché les quelques 1700 passagers d'apprécier les plaisirs du bord. C'est ainsi que les invités du président de la Transat, M. Anduze Paris, et du commandant Croisy, ont partagé avec Juliette Gréco et Marcel Achard le gâteau monumental, orné d'une réplique du paquebot dont on apprécia sans doute qu'il soit le plus long du monde. Pour les générations qui n'ont pas encore passé le cap des 10 ans, Guignol offrait un spectacle permanent. Quant aux autres, que Guignol ne passionne plus, ils ont trouvé en Juliette Gréco un parfait professeur de twist. Et le twist fit rage sur le France. Ainsi passèrent 5 jours au bout desquels se profila la statue de la liberté. Et le France pénétrait dans l'Hudson River, survolé par les hélicoptères, salué par les bateaux-pompes et le mugissement des sirènes d'un grand port. Au pied des gratte-ciels de Manhattan, New York lui a fait l'accueil grandiose qu'il réserva, voici bientôt 30 ans, au Normandie.
Et le Normandie, d'ailleurs, Aymeric Perrois, comment était-ce? Sa carrière était plus brève, 35-42, c'était à certains égards, quant au style du décor, plus intéressant.
Ben, on va dire que le Normandie est le chef-d'œuvre de l'art déco. C'est une pièce extraordinaire, c'est un bâtiment exceptionnel dans ses dimensions. Et puis on est en pleine crise de 1929 qui arrive un peu plus tard en Europe, et avec la volonté de la France de faire vraiment une œuvre nationale et qui va pouvoir transporter en quelque sorte, valoriser les arts décoratifs à l'époque. Donc on a des pièces extraordinaires de Ruhlmann, de Lalique et autres.
Tandis que sur le France, on fait appel pour fabriquer du moderne à des décorateurs très classiques. Et du coup, c'est hybride.
Justement, c'est ça qui est assez intéressant. Il y a un livre justement qui vient de sortir là sur à bord des arts décoratifs, enfin à bord des paquebots. C'est de voir que la Compagnie Générale Transatlantique finalement fait confiance aux mêmes décorateurs, que ce soit en 35 ou également en 1950, puisqu'elle va demander à Leleu, elle va demander à Sub, elle va demander à Spade, elle va demander à Dominique encore, qui étaient des tenants en quelque sorte de l'art déco, de travailler sur France. Mais finalement, elle n'a pas tellement le choix parce qu'elle a besoin de décorateurs qui soient vraiment au fait de comment marche une commande pour un paquebot, parce qu'il faut que tout soit prêt en temps voulu.
À propos de livres, il y a le catalogue de l'exposition au Musée National de la Marine, dont vous êtes un des responsables, Aymeric Perrois. Il y a aussi le livre de notre vieux camarade Claude Villers, chez Glénat, qui s'interroge sur le fait de savoir si les classes sur le France, classe touriste, première classe, c'était pas des castes. Comment ça se disposait, l'espace?
Alors, au niveau de l'espace, effectivement, hein, on avait très peu de, c'était très cloisonné, très peu de liens entre les classes. On va dire que c'est...
Si le chenil était partagé, les chiens de première classe et de classe touriste.
Oui, peut-être. On va dire que il y a quand même une certaine démocratisation par rapport à ce qui existait avant. On pense justement en Normandie, ou même avant, où il y avait une troisième classe qui était réservée aux immigrants. Ça n'existe plus. En revanche, très peu de temps après, la Cunard, avec le Queen Elizabeth II, décide d'avoir une division totalement différente, et on est plus là sur des espaces publics que tout le monde peut côtoyer et tout le monde peut y aller partager, et où là c'est uniquement les prix qui fait la différence.
Oui. Combien de classes touristes? 1200? Combien de première classe? 500? Je parle du nombre de passagers.
Au niveau du nombre de passagers, on a davantage de classes touristes et on a des cabines qui sont elles-mêmes interchangeables. C'est-à-dire que si jamais on a plus de classes touristes, hop, on peut interchanger des cabines de première classe en classe touriste.
Et puis des appartements de semi-luxe et de luxe qui portent le nom des provinces françaises.
Voilà.
Donc un patio Provence quand vous louez l'appartement Provence. Et au service de tous ces passagers, près de 1000 membres du personnel.
Oui, c'est-à-dire que un paquebot est d'une part un immense hôtel flottant en quelque sorte, mais c'est aussi une immense entreprise aux ordres du commandant et du commissaire principal. Et donc ça, c'est une dimension qui est très importante à avoir en tête. C'est que il y a 1000 personnes qui travaillent à bord.
Le nom du premier commandant Croisy. Allez, on va citer le nom de Jean-Claude Liberman, de Sylvie Descaves, de Dominique Boisseau, parce qu'ils ont travaillé sur le France et qu'on retrouve leurs témoignages dans le cadre de votre exposition au Musée National de la Marine.
À bord du France, j'occupais les fonctions de coiffeur. En particulier, tous les matins, j'allais voir le peintre Dali dans sa suite Normandie, entouré de ses deux chats Oslo. J'ai eu l'occasion de couper les moustaches de Salvador Dali.
À bord du Franc, je travaillais au pressing, je repassais, je nettoyais les vêtements des clients. Les messieurs, en particulier, avaient des costumes blancs. Ils se promenaient beaucoup sur le pont. Et sur le pont, ces magnifiques cheminées. Et là, se crachait beaucoup de suie noire qui tombait sur les vêtements. Et après, on avait un travail énorme.
Mes fonctions sur le Franc, c'était mousse de sonnerie, donc c'est-à-dire groom. J'ai le souvenir d'un ancien truand de Chicago qui naviguait trois quarts de l'année sur Paquebot France. Il faisait toutes les croisières. Et il lui arrivait fréquemment d'avoir des grosses colères avec sa compagne. Il jetait par-dessus bord les manteaux de vison, les bijoux. Et le lendemain, forcément, ça faisait scandale parce qu'il ne se souvenait plus. Donc il accusait un peu les membres du personnel. Mais une semaine après, il avait tout racheté et il recommençait.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Quel travail sur le paquebot France, surveiller les bandits reconvertis qui jettent les bijoux à l'eau, et puis aussi les pickpockets qui sont évidemment attirés par les possesseurs de bijoux qui montent nombreux. C'était comment la sécurité sur le France,
Éric Leroy? La sécurité était quand même là. Hein. Il faut pas oublier que sur le France, on a transporté la Joconde en 1962 pour une exposition à New York. Donc on va dire qu'il y avait quand même de la sécurité. Non, c'est une immense ville, hein. C'est une très grande ville et où bien sûr, on le voit avec ses témoignages, il y a tous les caprices aussi des stars et un monde qui se côtoie entre, on va dire, les milliardaires ou les people en quelque sorte de l'époque, et puis des personnes en classe touriste qui sont beaucoup plus comme vous et moi sans doute, et qui profitent, on va dire, du voyage.
Alors la Joconde est souriante mais muette, mais beaucoup de people, comme vous dites, sont insupportables. Alors il fallait par exemple tenir parti de l'ivresse d'un certain nombre de passagers. Ils portaient des badges, ce qui permettait de les reconduire, raconte Claude Villers, à leur cabine sans difficulté.
Oui, ça a pu arriver, ça arrivait encore plus dans les années 20-30, quand il y avait la prohibition de l'alcool aux États-Unis, parce que le voyage en mer était là l'occasion, justement, de passer un bon moment et de goûter les vins français. Donc, on va dire qu'il y avait eu de l'amélioration par rapport à ça.
Mais à l'heure où on dessert la table, chez un certain nombre de nos auditeurs, vous pouvez nous dire ce qu'on mange sur le France ?
On mange une très très bonne gastronomie, avec caviar et autres.
Ouais. Enfin, le caviar, c'est pour la première classe.
Le caviar, c'est pour la première classe, exactement. Mais avec des plats très variés, mais une cuisine traditionnelle, hein, qui est une cuisine, en fait, qui a fait la notoriété de la gastronomie française avec les crêpes Suzette et
bien d'autres. Ah oui, les crêpes Suzette flambées, c'est très fréquent, flambées. Tout un spectacle. Oui, mais tout de même, il faut garder l'impression d'être en France, et beaucoup de passagers sont américains. Alors, il y a un chapitre d'Anthony Rollet dans votre catalogue qui dit que le France illustre, dans le domaine de la gastronomie, l'incompréhension mutuelle des Américains et des Français.
Ah, ben l'incompréhension mutuelle, elle est effectivement dans le chapitre, et il y a un développement là-dessus. Ce qui est important de voir, c'est que c'est avant tout l'ambassadeur de l'art de vivre français, et que derrière, on a effectivement les vins fins et la gastronomie. Donc on a cette dimension-là.
J'arrive quand tout s'éteint, disait Paul Morand. On va citer Paul Morand, qui n'était pas précisément un ami du général de Gaulle, dans cette émission consacrée au paquebot France. J'arrive quand tout s'éteint. Il est arrivé trop tard, le France.
Alors, il est arrivé trop tard au niveau économique, ça c'est sûr, oui. Oui, il est arrivé trop tard, c'est-à-dire qu'il aurait été mis en service beaucoup plus tôt, il aurait eu une vie sur l'Atlantique Nord beaucoup plus longue, et il serait arrivé à un moment où l'aérien n'avait pas encore pris toutes les parts de marché, en quelque sorte. Donc, effectivement, ça c'est sûr qu'il arrive trop tard. Mais le France a eu une très belle vie, quand même. Hein.
Oui, enfin, elle est brève, il consomme trop.
Elle est brève en tant que France, mais elle est très longue,
oui,
en tant que Norvège.
On va y venir, au Norvège. Mais il consomme trop, quand il s'appelle encore le France.
Alors, il consomme
trop,
il consomme beaucoup moins.
La crise pétrolière intervient, la première de nos sept crises pétrolières.
La première de nos sept crises pétrolières, effectivement. Il consomme trop, il consomme moins, en revanche, que Normandie. Et on va dire que la question pétrolière n'est pas forcément au cœur de l'arrêt du France. On va dire qu'on a pris ça comme prétexte, en quelque sorte, mais il y a beaucoup d'autres choses.
En fait, il est déficitaire depuis 65.
Il est déficitaire, premièrement, parce que l'avion a pris l'essentiel des parts de marché au niveau des passagers. Ça, c'est la première chose. Il est déficitaire aussi parce que, un grand paquebot demande à avoir un important personnel, avec donc le pavillon français à l'époque, qui est un pavillon assez contraignant, et que ça fait finalement un membre d'équipage pour deux passagers. Donc il est évident que dans l'avion, on n'a pas un membre d'équipage pour deux passagers. Et puis, bien sûr, il y a aussi la conjoncture. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1974, quand le France est arrêté avec la ligne Le Havre-New York, on est dans les dernières lignes régulières au niveau des passagers.
Hein. Alors, le France est arrêté en 1974. C'est Jacques Chirac, délégué par Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, qui ne voulait pas en prendre la responsabilité directe, qui l'annonce. Un milliardaire saoudien l'achète en 1977 et puis renonce à l'exploiter. C'est un armateur norvégien. Voilà le temps du Norway qui commence, qui le reprend. Il en fait donc le Norway, au grand dam des syndicalistes et de la municipalité encore communiste du Havre, qui essaie jusqu'au bout, archives de 1979, août 79, de retenir le bateau.
Pour le moment, les manifestants de la CGT sont repoussés par les CRS et les gendarmes mobiles. En fait, ce sont eux qui ont gêné la manœuvre en occupant les points d'amarrage.
Les haussières tombent les unes après les autres. Rien ne retient plus l'ex-France au Havre à présent. Là-haut, sur la dunette de commandement, le nouveau patron du Norway est en train de donner ses instructions. Les dernières instructions pour quitter le quai. En quelques instants, quand le câble sera tendu, France bougera pour la première fois depuis 4 ans.
Alors le Havre a résisté jusqu'au bout. Alors il y a une nouvelle municipalité pour le compte de laquelle vous travaillez, au patrimoine maritime du Havre, mais à l'époque c'était une forteresse du PC.
Oui, tout à fait. Ben le France, on va dire, en quelque sorte, a cristallisé un combat, hein. Ce qui est aussi un combat, d'ailleurs, de la marine marchande, c'est-à-dire que, comme on le disait, le France, c'est 1000 membres d'équipage. Il faut voir qu'aussi sur les cargos, à l'époque, il y a à peu près 50 membres d'équipage et qu'aujourd'hui, sur un porte-conteneur, il y en a plus de 18. C'est-à-dire qu'il y a une mutation dans les années 70, premièrement avec l'arrêt des lignes régulières de passagers, et avec les équipages importants comme celui du France, et puis d'autre part la généralisation du conteneur, ce qui fait qu'il y a, on va dire, deux éléments qui apportent, on va dire, en quelque sorte une sorte de trouble sur la marine marchande. Et on va dire que là, on est vraiment sur un baroud d'honneur.
Alors, il y a aussi... Le Norway, quand même, a trouvé des solutions. L'armateur norvégien est malin. D'abord, il lui a donné des destinations, les îles des Caraïbes. Et puis, il a fait en sorte que les prix baissent. Le chauffeur de taxi de Chicago, et non plus le bandit reconverti de Chicago, pouvait s'offrir sur le Norway une traversée de quelques jours.
Alors, juste avant, effectivement, de répondre par rapport à ça, juste pour expliquer un petit peu cet attachement au Havre, le paquebot France a été en quelque sorte un des monuments du Havre, et notamment dans la ville détruite, et bien sûr avec la reconstruction. Et donc, il était très très fort, un élément très fort pour les Havrais.
Alors, le Chicago.
Au niveau de la deuxième vie du France en paquebot de croisière, est-ce que c'était un service public que de faire la croisière? C'était exactement ce qu'a posé l'État. La Compagnie Générale Transatlantique aurait pu effectivement développer les croisières comme elle l'avait fait avec France. Mais en revanche, avec le pavillon français, c'était beaucoup plus difficile.
Alors, le Norway avait conservé un certain nombre d'aménagements du France?
Le Norway avait conservé un certain nombre d'aménagements, tout à fait. La grande salle à manger, première classe, justement, était encore du France.
Non, parce qu'on lit souvent, je ne dis pas que c'est le cas dans votre catalogue, qui ne fait ni dans le cocorico, ni dans la nostalgie, que les aménagements des années 80 faisaient nouveaux riches, bling-bling, ils étaient superposés aux beautés supposées des années 60, issus des provinces de France.
Mais c'est deux mondes différents. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on voulait dans l'exposition, donc dans cette étude d'une œuvre industrielle qu'est le France, c'est avant d'étudier une œuvre des années 60. Voilà. Alors, il se trouve qu'effectivement, dans les années 80, il y a eu des réaménagements, et dans les années 90, et que là, on a une autre décoration. Alors,
puis, jacuzzi, salle de fitness, un pont giratoire pour le jogging, mais reste quand même un certain nombre d'objets. Ce sont ces objets qu'après la fin du Norway, 2003, incendie d'une chaudière, arrêt de l'exploitation, sont vendus aux enchères, par exemple, en 2008.
Là, c'est des tables de salon, des tables de bar et des tables de snack. Les dessus en marbre et des piétements en fonte.
Jacques Vorzac est antiquaire. Il a acheté ces objets de décoration sur un navire mythique, le paquebot France. Une fois rénové, il les revendra aux enchères à Paris. Sur la côte ouest de l'Inde, la coque du bateau repose dans un mètre d'eau. Elle va être découpée. Le France ne naviguera plus jamais. Le chantier mobilisera 200 ouvriers, des petites mains pour qui le prestige du navire importe peu.
Envoyé spécial, c'était en avril 2008, en baie d'Anang. Alors la vie du Norway était deux fois plus longue, au total 25 ans ou presque, que la vie du France. Et puis l'achèvement quand même, on n'a pas pu trouver d'autres solutions, même si plusieurs ont été esquissées. Ça en dit long sur la redistribution des cartes dans le monde maritime. Le pandit Nehru vient faire allégeance au général de Gaulle à l'Élysée juste avant le lancement du France, et le France finit en Inde, en baie d'Alang, devant les ferrailleurs de la mer indifférent.
Oui, alors là, vous allez assez loin, effectivement, dans votre analyse. Je ne sais pas si je vous suivrai jusque-là. Mais non, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que le France, premièrement, on a ces personnes qui achètent des objets. Et le France, aujourd'hui, est toujours vivant par les objets, notamment par les collections de l'association French Line, qui conservent ce patrimoine-là.
Ce sont les reliques.
Alors, pas forcément.
Là, les reliques de la Madone.
Et puis, alors non, c'est pas forcément des reliques, parce qu'on a beaucoup d'œuvres d'art, justement, à French Line et d'autres. Il faut voir que la plupart des paquebots, en général, ne sont pas conservés. Donc, il n'y a pas forcément d'obligation à conserver le France. Le France aussi avait énormément d'amiante. Donc, c'est pour ça que le France a été démantelé.
Mais maintenant, vous voulez dire que le Havre se porte pas si mal dans la compétition maritime française?
Ah ben, le Havre
est mondial.
Le Havre est un grand port. Et ce qui est important de voir, justement, pour rebondir par rapport à votre lien, c'est que le Havre est aujourd'hui le plus grand port sur la façade ouest d'accueil de paquebots de croisière. Donc le Havre renoue chaque année avec les paquebots de croisière à la belle saison. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à aller au Havre pour voir ça, parce que c'est toujours très impressionnant de voir ces énormes paquebots.
Non, mais le Havre résiste bien. Le Havre a été réaménagé dans le projet Grand Paris. L'axe Le Havre, maison de Radio France et immeuble Mangin, c'est très important. Néanmoins, les Chinois prennent beaucoup de part sur ce marché, même sur l'axe Le Havre-Aubervilliers qu'ils ont déjà prévu d'investir. Enfin, que voulez-vous, cette redistribution des cartes, elle illustre quand même la divergence croissante entre ce qu'on appelait l'Occident et le monde émergent.
C'est quand même un objet de valeur, un chef-d'œuvre du génie maritime. Ce navire-là, il ne peut pas partir, c'est pas vrai.
Alors votre exposition au Musée national de la Marine à Paris, de ce côté-ci de la Seine jusqu'au 23 octobre. L'équipe de La Marche de l'Histoire, Camille Poux, Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard, vous avez reconnu Jacques Sigal au choix, oui, des chansons. Et puis à la technique, Gilles Gaillard et Yann Bouillant. On retrouve sur notre site toutes les données associées nécessaires pour la compréhension de cette émission. Puis je vous invite à renouveler votre abonnement à La Marche de l'Histoire. C'est notre nouveau nom. Il est 14h dans quelques instants, le journal de Corinne Audouin.